Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Chers amis auditeurs de Radio Immo, bonjour et bienvenue pour cette 6e édition du confort dans l'habitat avec Promotelec. Aujourd'hui, nous allons parler habitat, habitants et mode de vie. Et pour ça, nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Luc Brulard, cofondateur de la fondation I Love You. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Et Stéphane Pavlovic, directeur général de la Confédération Générale du Logement. Bonjour Stéphane.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Dominique Desmoulins, bonjour, notre invité permanent pour cette émission Habitat, habitants et mode de vie.
Le confort dans l'habitat, parole à Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec.
Bien, nous allons aborder un grand sujet qui sont effectivement les habitants et l'habitat. Et pour essayer de se limiter un petit peu et ne pas partir dans tous les sens, on a essayé de choisir un thème qui était en fait le bien vieillir, voire la mixité intergénérationnelle dans l'habitat. Quelles sont en fait les clés du succès? Parce que ces projets, on les connaît tous, on trouve tous qu'ils sont logiques et intelligents. Par contre, quelles sont les clés du succès? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que finalement ce type de projet fonctionne entre les différents habitants qui ont des préoccupations différentes, des origines différentes et puis des âges différents?
Eh bien, nous allons en débattre tout au long de cette émission.
Le confort dans l'habitat, l'invité.
Alors messieurs, merci une nouvelle fois d'être parmi nous. Jean-Luc, j'aimerais que vous puissiez en quelques mots nous dire les missions de la Fondation I Love You.
Alors, tout d'abord, merci à vous. Merci, grand merci à Promotelec de votre initiative, de votre soutien à I Love You et de nous donner de la visibilité, si je puis dire, auditive à travers votre émission. Je suis ravi d'être là avec vous, les professionnels de l'habitat, mais aussi ravi d'être là aux côtés d'un représentant d'une fédération de locataires. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je pense que la chaîne de l'habitat et la mobilisation pour l'habitat, c'est l'affaire de tous. Alors, moi, je suis un professionnel de l'immobilier, pur sucre, j'allais dire, puisque je suis un agent immobilier de proximité. J'ai été 25 ans bailleur social avant. J'ai rejoint Isabelle Larochette, notre présidente, qui s'excuse puisqu'elle aurait dû être à ma place. Il y a quelques années, on a créé, après une première association, on a créé la Fondation I Love You, qui est une fondation sous l'égide de la Fondation de France, dont l'objet est de mobiliser les professionnels d'abord de l'immobilier, puis ça s'est élargi à un certain nombre d'autres partenaires pour s'ouvrir sur l'ensemble de la filière de l'habitat. Mobiliser les professionnels autour de la question du mieux logement. On parlait tout à l'heure d'intergénérationnel, on y reviendra, mais la question du mal logement, elle est intergénérationnelle aujourd'hui. On a trop souvent le cliché du mal logement, SDF, etc. Mais les rapports de la Fondation Abbé Pierre sont bien plus parlants. Le spectre est bien plus large. Et voilà, nous, on veut mobiliser les professionnels de l'immobilier pour donner de la visibilité aux associations qui font un travail formidable sur le terrain, bénévoles, compétents, qui passent des heures, qui ont besoin d'un peu d'argent ou d'un peu de matériaux pour réaliser des chantiers. On y reviendra aussi. Oui, donc nous, on a cet objectif, nous qui vivons du logement, de faire ce trait d'union avec les associations. Et on le veut de façon résolument positive et optimiste. On parle donc de mieux logement.
Et tout cela, bien entendu, sur l'ensemble du territoire national.
Oui, tout à fait. On évoquera peut-être un certain nombre d'opérations qu'on a pu faire, mais notamment celle qui fait l'objet aujourd'hui de notre mobilisation, elle est au cœur de la ruralité, parce que les territoires et la ruralité sont des enjeux ô combien d'actualité. Et la question du mieux logement, elle se pose à la fois à toutes les générations, on l'a dit, mais aussi dans tous les territoires.
Merci Jean-Luc. Alors, Jean-Luc parlait du relais des associations. Stéphane, la Confédération Générale du Logement, c'est ses missions et puis son relais, son existence sur le terrain, ça se présente comment?
Alors la CGL, la Confédération Générale du Logement, est une association nationale de consommateurs agréés spécialisée dans le domaine du logement.
Qu'est-ce que cela signifie, association de consommateurs agréés?
En fait, des associations de consommateurs, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers en France. Celles qui sont agréées, il y en a 15 en France. Elles sont agréées par le ministère de la Consommation. Cet agrément leur donne la possibilité de bénéficier de subventions d'État, mais également leur donne quelques outils en matière d'action en justice. Et elles ont aussi la possibilité, à ce titre, de siéger dans différentes instances au niveau national, notamment donc le Conseil national de la consommation, au sein duquel elle donne son avis d'amélioration de la réglementation et de remontée aussi des pratiques qui peut y avoir sur le terrain.
Et donc tout cela pour aider les occupants des logements, plutôt les locataires, j'imagine ?
Alors, c'est intéressant de le préciser, de me donner l'occasion de préciser que l'association, la CGL, est une association qui regroupe, fédère, qui organise les usagers du logement. Les usagers du logement, donc tous les occupants d'un logement, qu'ils soient locataires, copropriétaires occupants, ou même propriétaires individuels, ou accédant à la propriété. Alors, certes, nous sommes un petit peu plus connus à la CGL, parce que nous avons un peu plus de locataires, je dirais, au sein de nos adhérents. Mais nous avons vocation à aider, comme je le disais, à fédérer, à informer, à défendre l'ensemble des usagers du logement en France.
Merci. Alors, effectivement, quand on parle habitat, habitant, mode de vie, nous en parlions ensemble hors antenne tout à l'heure. Finalement, les choses évoluent, elles évoluent vite aussi aujourd'hui dans le périmètre actuel sur cette notion de l'acte d'habiter ou de la façon d'habiter. Dominique Desmoulins le précisait il y a quelques instants. On va essayer de se focaliser un petit peu sur ce côté finalement intergénération, habiter ensemble, et puis le fait du parcours générationnel de vie, parcours lorsque l'on vieillit notamment. Jean-Luc, dans les actions concrètes, je crois que dans le centre de la France, vous avez mené ou vous menez encore actuellement une action très spécifique sur ce volet-là.
Oui, la fondation I Love You, dans le cadre de sa journée Solidarité Logement, là il y a quelques semaines, en fin d'année, a mobilisé à travers une opération de crowdfunding toutes les bonnes volontés et les porte-monnaies autour d'une opération formidable qui se passe effectivement à 100 coins dans le Cher. Une opération exemplaire à plus d'un titre. Elle est portée par une foncière associative, solidaire, qui s'appelle la foncière Chenley. Moi, j'ai des convictions que on ne s'en sortira pas si on segmente toutes les problématiques. On a un État qui est exsangue en termes de finances publiques, et il faut donc chercher les synergies, la transversalité. Cette opération de 100 coins, c'est l'ancienne école classée municipale qui est vide depuis des années, peut-être même des décennies, que la ville de 100 coins a offert à la fondation pour un euro symbolique. Voilà donc.
Ce qu'on appelle les territoires oubliés.
Et voilà, un petit territoire rural. Le projet de la foncière, qui a déjà réalisé un projet comme celui-là, mais un projet neuf, là, ça sera de la réhabilitation, c'est de faire de cette ancienne école 14 logements adaptés pour personnes âgées autonomes. Et on voit là que c'est une façon de réhabiliter du patrimoine, mais c'est pas le plus important, de maintenir des personnes âgées sur leur territoire. Vous savez, quelques années maintenant, quand je m'occupais de personnes âgées autonomes, on me disait, c'est quoi le meilleur endroit pour finir ses jours? Alors, on disait l'EHPAD, la RPA, la résidence pour personnes âgées. Moi, j'ai dit, le meilleur endroit pour finir ses jours, c'est celui que l'on choisit. Et en général, celui qu'on choisit, c'est dans son tissu social, dans son territoire, au plus proche des siens, à condition d'y avoir les services, la proximité, etc. Cette opération de 100 coins, elle a pour objet, effectivement, de maintenir sur ce territoire, de maintenir dans leur cadre de vie 14 personnes âgées qui, moyennant ces services et cette proximité, qui d'ailleurs, par ce regroupement, permet de faciliter aussi l'intervention des interventions des uns et des autres, de les maintenir dans le territoire. Cette opération sera faite aussi en faisant appel à de l'emploi et de l'emploi aidé, de l'emploi local, et voilà encore une façon de contribuer, et par ailleurs en utilisant aussi, autant que faire se peut, ça avait été le cas dans la première opération neuve, des techniques de développement durable. Donc voilà, maintien des populations sur leur territoire, maintien de la vitalité des centres-bourgs, maintien des personnes âgées à domicile, réhabilitation d'un patrimoine de qualité. Stéphane Bern, si tu nous entends. Travail local et emploi local, voilà, moi, une opération que je trouve exemplaire parce qu'elle travaille sur tous les axes pour un même résultat.
Tout à fait. Alors, on n'a pas Stéphane Bern, mais on a un autre Stéphane, Stéphane Pavlovic. Le sujet qu'évoquait Jean-Luc, c'était au niveau de ce qu'on disait, le territoire oublié ou la ruralité. Lorsqu'on revient dans des zones un peu plus urbaines et notamment dans un contexte orienté locataire, ce côté du vieillir ensemble, ça demande des dispositions particulières.
Alors, je dirais que la cohabitation intergénérationnelle ne va pas forcément de soi, effectivement, selon les situations, selon les territoires. En revanche, et on vient de le voir, c'est un formidable outil pour répondre à différents enjeux. C'est vrai que c'est le moment de réunir différents aspects, différents enjeux, différents objectifs au sein de projets collectifs. Et quand je disais que ça ne va pas de soi, c'est que avant tout, ça doit être la réponse à quelque chose de collectif. Et donc l'exemple qui vient d'être donné, nous on y souscrit parfaitement. Ça doit être développé. Il y a aucun souci avec ça. Et on constate, nous, que ça répond vraiment à des besoins. Ensuite, je disais que ça ne va pas de soi. C'est vrai que nous, on a à la CGL beaucoup d'exemples de difficultés de cohabitation dans l'habitat collectif, que ce soit, on en parlait tout à l'heure, dans le locatif social par exemple, ou même en copropriété. Et donc, je dirais que dans certaines zones, dans certains sites, cette cohabitation ne va pas de soi. Et du coup, des projets collectifs sont difficiles peut-être à mener. Mais du coup, et là peut-être faire un lien avec l'actualité législative, nous avons accueilli assez favorablement une disposition de la loi Elan qui permet justement de faire venir la cohabitation intergénérationnelle, cette fois-ci non plus sur l'ensemble de la résidence, mais au sein même du logement, avec la possibilité pour des personnes âgées de sous-louer, sans, lorsqu'elles sont locataires, hein, sans autorisation du propriétaire particulier, de sous-louer une partie du logement, voire une pièce, à une jeune personne en échange de services à la personne. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important. C'est une vraie réponse à des enjeux, comme je le disais tout à l'heure, qui sont variés, c'est-à-dire que la personne âgée souhaite être accompagnée au quotidien, et puis la personne jeune, entre guillemets, cherche un logement à des tarifs abordables. Et donc la rencontre de ces intérêts dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle fait que tout le monde est satisfait.
Alors ça, je crois que c'est un point intéressant, et c'est vrai que dans les communications médiatiques autour de la loi Elan, c'est quelque chose qui, à mon sens, est passé un petit peu en dessous des radars. Et là, tous les auditeurs qui seraient intéressés, je pense, peuvent se rapprocher du site internet de la CGL ou vous contacter, Stéphane, parce que vous aurez peut-être des précisions sur le cadre technique de cela à leur donner. Mais c'est effectivement quelque chose d'intéressant parce qu'on fait vraiment de l'intergénérationnel, finalement, à la demande de la personne, à l'échelle du logement.
Exactement.
Et sans obligation particulière au sein du collectif, parce que finalement, le collectif, il n'est pas facile à faire bouger, au regard de ce que vous dites les uns et les autres.
Tout à fait. Je pense que il faut, on l'évoquait aussi hors antenne, il faut des éléments fédérateurs, des éléments qui cimentent. On ne peut pas provoquer une rencontre de générations qui ont, et ça va de plus en plus vite, tellement peu de repères ou de valeurs en commun. Il faut donc, je pense, essayer de travailler aussi les exemples que l'on citait autour de la musique, du jardinage, etc., qui sont des éléments qui peuvent permettre de créer, j'allais dire, cette étincelle, cette envie de cohabiter. Je pense aussi, et j'espère en tout cas, que pour le coup, les moyens numériques et d'aujourd'hui et de demain permettront peut-être aussi de faciliter ces rencontres en amont pour pouvoir construire ensemble, en colocation,
sur un
cohabitation,
commun.
Un projet commun qui devient un projet de vie commun.
Oui, et tout cela, finalement, c'est la somme des intérêts individuels qui se rencontrent pour aller dans un intérêt collectif. Sur le côté de cette opération de Sans Coin, de revitalisation d'un centre-bourg, finalement, au travers du logement de personnes du village, vous avez encore besoin de fonds au niveau de la fondation?
Merci. Oui, on a levé à peu près 65 000 euros qui peuvent financer, qui contribuent autour de table. Mais j'allais dire, plus on mobilise, mieux c'est. Vous savez, ce travail associatif, même s'il est pour partie financé, est toujours en train de se battre pour boucler. Donc nous, à travers la fondation, le site de la fondation I Love You, on peut faire un don. Donc il va immédiatement, à travers la passerelle, on bascule directement sur la passerelle de la Fondation de France. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais nous sommes sous égide de la Fondation de France, qui est un gage de crédibilité, de transparence. Pour nous, tous les dons, jusqu'au moindre euro, va sur les projets. Au passage, ça permet de défiscaliser aussi, puisqu'on reçoit après son attestation, et là je pense aux professionnels, à mes confrères, à toutes les gens. Bon, je crois qu'on a 66% de défisc, ce qui est quand même une façon de flécher un petit peu ses impôts. Voilà, donc effectivement, plus l'argent arrivera et le tour de table se complétera sur cette opération de 200 coins, bah, plus vite elle verra le jour et plus à l'aise sera la foncière Chenelet, qui encore une fois fait un travail formidable.
Donc finalement, à la fois des auditeurs qui souhaiteraient contribuer financièrement à cette opération ou aux opérations de manière générale, la Fondation Eulogius sont les bienvenus.
Absolument.
Et puis ceux qui auraient des projets aussi, j'imagine, peuvent les manifester.
Oui, alors nous sommes une petite association puisque nous ne sommes que des bénévoles, mais soit à travers nous, la Fondation Eulogius, soit à travers la Fondation de France qui fait un gros travail aussi sur la question de l'habitat, les choix d'affectation des dons que l'on a se fait aussi soit en concertation avec la Fondation de France, soit par des canaux directs qu'on peut avoir. Je vais prendre un exemple qui relevait de l'urgence et de l'immédiateté au dernier salon Batimat, qui nous a réservé un accueil particulièrement chaleureux. On a remis 45 000 euros à l'association des compagnons bâtisseurs, qui fait de l'autoréhabilitation magnifique, et qui partait, l'urgence là prévalait, à Saint-Martin pour une opération de reconstruction. Donc voilà, c'était il y a quelques mois maintenant. Ils ont fait un énorme boulot sur place. Voilà, c'est ce type de projet qu'on peut soutenir.
Donc à Eulogius, c'est la France métropolitaine et les Outre-mer.
Mais bien entendu. Et le mal logement et le mieux logement sur des choses qui sont pas forcément visibles, qui sont au coin de la rue. La solidarité, effectivement, elle est aux quatre coins de la planète, mais elle est aussi au coin de la rue, faut pas l'oublier. Sur des choses qui peuvent être simplement améliorer du confort, remettre des radiateurs, isoler un appartement, encore une fois avec des associations qui le font très bien, ou sur des choses qui sont comme ça, plus dans l'urgence, plus sur des événements déplorables, mais voilà.
Dominique Desmoulins, une réaction par rapport à cela ?
Oui, je voudrais donner un autre exemple parce qu'on a connu un autre qui était... on a fait des trophées de la rénovation pour Hôtel-Aix l'année dernière au Salon des Maires. Et on a récompensé donc une opération et un projet qui se situe à Limoges, qui a été monté par l'ACMIL. C'est une association de maîtrise d'intervention dans le logement, etc., avec Mutlog. Et leur idée, c'était de faire coexister des personnes âgées dans un bâtiment, avec des étudiants en médecine. Mmh. Et donc, ces étudiants en médecine avaient des chambres à des coûts réduits, c'était pas loin de la fac, etc. Et les services qu'ils apportaient, c'était une présence, c'était évidemment pas du médical, mais c'était une présence auprès des personnes âgées. Et donc, ce type de projet, je crois qu'il faut les multiplier parce que ça paraît évident aujourd'hui quand on en parle, mais personne le fait. Donc, ce genre de choses, ça contribue quand même à la concrétisation de la mixité.
Stéphane ?
Oui, tout à fait d'accord. On peut qu'abonder dans ce sens. Il faut les multiplier. Et pour les multiplier, je dirais, là, c'est plus effectivement les habitudes de l'association. Il faut informer. Il faut en débattre, comme aujourd'hui. Réfléchir dans nos propres structures aussi à différents projets. Et on voit qu'il y a des projets qui sont très ambitieux, où on part de rien pour construire des bâtiments adaptés à l'objectif poursuivi. Mais on le voit aussi, avec ce que j'ai dit pour la loi, qu'on peut faire des choses sans vraiment avoir, sans avoir besoin d'argent, sans avoir besoin de déplacer des montagnes. Mais ce qu'il faut, et ça, je pense qu'il faut absolument retenir ce point. Il faut que, comme l'a dit Dominique, les différents intérêts particuliers puissent se regrouper autour d'un projet commun. Pour ça, informer, parler, utiliser le maillage associatif dans le collectif, que ça soit en locatif ou en copropriété, je disais. Hein, en copropriété, il y a aussi des possibilités de faire des choses. Et donc, dans le logement existant, hein, ne pas penser que ce sont que des projets qui peuvent être construits... mais qu'on peut faire des choses dans l'existant, utiliser le maillage associatif et vraiment en parler. Rien que discuter avec ses voisins dans un premier temps peut faire naître justement des idées et ensuite elles peuvent se concrétiser très simplement. Donc bien sûr qu'il faut multiplier ces initiatives.
Eh bien, on va approcher du terme de cette émission et je crois que lorsqu'on parle des évolutions des modes de vie, ce que vous disiez, Stéphane, à l'instant, est fort révélateur. Il faut continuer à parler à son voisin parce que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Messieurs, avant que le mot de la fin de Dominique Desmoulins, je vous remercie de votre participation à cette émission. Chers amis auditeurs, vous pouvez retrouver donc des éléments d'information sur le logement général, sur le mieux vivre son logement sur le site internet de la Confédération Générale du Logement et puis pour tous ceux qui pourraient aider, accompagner la Fondation Ilojou également sur leur site internet, vous pouvez retrouver les contacts, la façon d'abonder à leurs actions et la façon de faire connaître éventuellement des projets qui pourraient émerger et avoir de la visibilité avec eux. Merci à vous messieurs.
Mais merci à vous surtout et merci, mille merci.
Merci.
Le confort dans l'habitat. Parole à Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec.
C'est pas évident de donner un mot de la fin sur un sujet aussi complexe que celui-là. Ce que je retiendrai quand même, c'est que nous, on parle du confort dans l'habitat dans lequel on met les économies d'énergie, on met le bien vivre chez soi, on met le logement sécurisé, la qualité de l'air. Mais il y a quelque chose qu'on met pas, c'est le lien social. Et est-ce que finalement le lien social, c'est pas quelque chose qu'on pourrait rajouter dans le confort dans l'habitat, parce que c'est quelque chose de fondamental et on s'en aperçoit avec les générations qui vieillissent. Et comme disait Stéphane sur la loi Elan, c'est nouveau, donc on voit qu'on va même réglementairement vers ce sujet-là. Mais je retiens aussi qu'il faut un projet commun. Et un projet commun, ça peut être effectivement le jardinage, ça peut être aussi les langues, parce que les personnes âgées parlent plusieurs langues et les gamins ont envie d'apprendre. Ça peut être Internet, parce que là on voit bien qu'il y a des complémentarités évidentes. Et donc ce genre de projet, c'est quand même du lien social et le confort dans l'habitat, c'est aussi ça. Et c'est une notion qu'on n'a pas mis en valeur jusqu'à maintenant chez Promotelec. Pourquoi pas l'y rajouter aujourd'hui.
Belle mission. À très vite.